20 часов в Париже.
В Париже, on dit le thermomètre au
stade, c'est rendu 20 aussi.
Accent du monde sur RFI. François Bernard.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute d'Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs sur RFI, on évoque les moments forts de l'actualité avec les rédactions en langue, autres que le français de votre radio. Ce soir, dans le studio de Radio France Internationale, Anya Stroganova pour le service russe. Bonsoir. Ninan Wang pour le service en langue chinoise. Bonsoir à vous. Et puis Lucille Grimbert pour le service en espagnol. Bonsoir Lucille.
Buenas tardes.
Alors merci de votre présence et de votre collaboration à cette émission. En deuxième partie, nous évoquerons l'annonce de Vladimir Poutine qu'il sera candidat à sa propre réélection. Ce sera en 2018. Nous parlerons de la crise électorale au Honduras. Et puis nous évoquerons également de World Internet Conference organisée par la Chine cette semaine. Mais pour l'instant, on s'arrête sur l'actualité la plus chaude alors que les Palestiniens protestent contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Et je vais commencer avec vous, Lucille Grimbert. La presse latino-américaine semble très critique concernant cette décision de Donald Trump.
Oui, elle est très critique. Avec cette décision explosive, Trump défie le monde, titre par exemple le quotidien argentin Clarín. Au Mexique, El Universal va dans le même sens et explique qu'après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et la fin de sa participation à l'UNESCO, Trump rompt maintenant et une nouvelle fois avec le principe de multilatéralisme, un principe mis en place après les deux guerres mondiales. Pour les médias latinos, de manière générale, Trump agit une nouvelle fois de manière isolée et dangereuse. Cette décision concernant la ville millénaire qu'Israéliens et Palestiniens revendiquent comme leur capitale va même contre le sens commun, considère El Tiempo, c'est en Colombie. Et puis en Uruguay, pour l'éditorialiste Claudio Fantini, c'est contre-productif parce que Trump, finalement, ne vient même pas remercier un geste qu'aurait fait le Premier ministre israélien en direction des Palestiniens ou en faveur du processus de paix. C'est un faux pas stratégique de la part d'un président qui ne connaît rien au Moyen-Orient et qui cherche juste à plaire à sa base. C'est l'opinion d'une spécialiste du Moyen-Orient de l'université Berkeley qui est reprise dans les colonnes du journal argentin Clarín.
Et alors les médias d'Amérique latine se sont penchés sur les raisons de Donald Trump et ses objectifs concernant cette décision. Qu'en disent-ils ?
Une décision prise contre l'avis de ses proches conseillers et malgré les conseils de ses alliés, c'est ce que note El Tiempo en Colombie. Mais encore une fois, America first, l'Amérique d'abord. Pour Trump, ce sont les intérêts domestiques qui priment. Pour Clarín, en Argentine, le locataire de la Maison-Blanche cherche à détourner l'attention des polémiques intérieures, comme le Russia Gate qui a atteint déjà plusieurs de ses proches. Il veut aussi récompenser les grands donateurs juifs qui ont financé sa campagne, écrit Paula Lugones à Buenos Aires, et contenter les chrétiens évangéliques. Ils représentent 26% de l'électorat aux États-Unis et ils ont voté massivement pour lui, pour Donald Trump, et ils considèrent que les lieux saints de Jérusalem doivent être loin des mains des Palestiniens. Enfin, rappelle le quotidien uruguayen, c'était une promesse de campagne de Donald Trump en direction de la communauté juive aux États-Unis, justement, qui voyait d'un mauvais œil la présence de Steve Bannon, accusé d'antisémitisme, parmi les conseillers du candidat républicain.
Merci, Lucille Grimbert. Un détour par la Russie, maintenant, avec vous, Anya Stroganova, pour constater que le président russe, Vladimir Poutine, s'est dit, lui, fortement préoccupé par cette décision de Donald Trump de reconnaître donc Jérusalem comme capitale d'Israël. Comment le chef du Kremlin a-t-il expliqué donc cette préoccupation ?
Il faut préciser d'abord que cette déclaration de Poutine est intervenue lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, dont la réaction était beaucoup plus virulente. Le président de la Turquie, je rappelle, avait déclaré auparavant que cette décision serait pour les musulmans du monde entier une sorte de franchissement du ligne rouge. Et Poutine, quant à lui, reste plus réservé. Ce genre de mesure peut barrer la voie aux perspectives du processus du paix au Moyen-Orient. Donc une réaction assez sobre du Kremlin dans un communiqué. Le ministère des Affaires étrangères russe a déclaré être très inquiet également de cette décision. Et la Russie, comme beaucoup au sein de la communauté internationale, dit craindre des tensions dans le Moyen-Orient.
Alors, on sait que l'URSS était fortement impliquée dans la gestion de la crise israélo-palestinienne. Or, ces dernières années, cette implication russe a beaucoup diminué. Est-ce que le Kremlin voit dans cette nouvelle disposition la possibilité de redevenir un acteur majeur dans la gestion de cette crise ?
Oui, en tout cas, on voit cette idée véhiculée par certains nombres de politologues pro-Kremlin. La Russie pourrait jouer le rôle d'intermédiaire. Nous avons de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, l'Iran est notre partenaire dans la crise syrienne. Et nous avons également de bonnes relations avec l'Israël, explique par exemple Stanislav Tarasov, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, cité par l'agence RIA Novosti. On voit donc que Vladimir Poutine essaie de se placer comme un interlocuteur fiable sur le Proche-Orient, notamment avec la déclaration de son ambassadeur en Israël, Alexander Shein. Ce dernier a réitéré que la Russie considère Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël et il a suggéré aussi la possibilité de transférer l'ambassade russe de Tel Aviv à Jérusalem une fois un accord de paix passé entre Israéliens et Palestiniens.
Donc la position officielle de la Russie, c'est de dire que Jérusalem-Ouest est considérée comme la partie israélienne mais que Jérusalem-Est comme la capitale du futur État palestinien.
Exactement, c'était la déclaration du ministère des Affaires étrangères russe qui a été faite au mois d'avril, alors qu'avant, Moscou considérait Tel Aviv comme la capitale d'Israël. Et aujourd'hui, cette déclaration de la diplomatie russe a été beaucoup interprétée par les politiques pro-israéliens comme allant dans le sens de la décision de Trump. Or, Trump n'a jamais employé ces termes, Jérusalem-Ouest ou Jérusalem-Est, et Moscou, dans sa déclaration officielle, insiste bien sur son attachement aux résolutions de l'ONU quant au principe du règlement de ce conflit.
Merci, Anya Stroganova. On voit maintenant comment la déclaration du président américain a été accueillie en Chine avec vous, Ninan Wang. La Chine, qui est un des rares pays dans le monde qui a une bonne relation avec Israël, en même temps avec le monde arabe, et Israël était le premier pays du Moyen-Orient et le septième parmi les pays non socialistes à reconnaître donc la République populaire de Chine, avant même la France. Quelle est la réaction de Pékin sur cette crise de Jérusalem cette fois ?
En fait, la Chine se dit soutenir la solution à deux États, c'est-à-dire l'un arabe et l'autre juif. Rappelons qu'il s'agit d'une solution approuvée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1947. Et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine vient de la réitérer. On l'écoute.
Alors, qu'est-ce que ce porte-parole nous dit ?
Lui dit que la Chine suit de près l'évolution de la situation et qu'elle s'inquiète d'éventuelles escalades des conflits régionaux. Il appelle à des parties concernées à ne pas nuire à la base de la résolution de la crise et affirme que la Chine soutient les droits légitimes du peuple palestinien pour créer un pays indépendant de pleine souveraineté avec Jérusalem-Est comme capitale selon l'armistice de 1967.
Alors, comme dans le reste du monde, la Chine investit beaucoup au Moyen-Orient. La crise de Jérusalem risque-t-elle d'affaiblir l'investissement chinois dans cette région ?
C'est vrai que les deux pays s'entretiennent de bonnes relations économiques. Par exemple, la Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial asiatique d'Israël et le troisième au niveau mondial, derrière les États-Unis et l'Union européenne. Le volume d'échanges entre la Chine et Israël s'élève à plus de 6 milliards de dollars américains dans les premiers 6 mois de 2017. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup d'armes de haute technologie que la Chine importe maintenant sont en provenance d'Israël et rappelons que la stratégie chinoise, dite la ceinture et la route, passera justement par le Moyen-Orient. La Chine déploie cette stratégie pour contourner le blocage des États-Unis côte Pacifique. Et c'est pas par hasard qu'elle s'inquiète de tout ce qui menace la stabilité du Moyen-Orient.
Ok, merci Ninan Wang du service en chinois de RFI.
20
Accent du monde sur RFI. François Bernard.
Deuxième partie d'Accent du Monde pour évoquer des sujets qui ont particulièrement intéressé les trois rédactions de Radio France Internationale que nous accueillons aujourd'hui dans cette émission. Pour le service russe, Anya Stroganova. Pour le service en chinois, Ninan Yang. Et pour le service en espagnol, Lucie Gimbert. Alors, en Russie de nouveau, Anya. Vladimir Poutine, encore lui, a annoncé mercredi qu'il se présenterait pour un quatrième mandat à la tête de son pays, la Russie. Une annonce qui a été faite dans une ambiance que vous avez jugée très soviétique. Expliquez-nous pourquoi.
En effet, cette annonce qui met fin aux fausses intrigues. Personne n'a douté que Vladimir Poutine allait se représenter. Et donc, elle a été faite lors d'une rencontre avec les ouvriers de l'usine automobile gaz de Nijni Novgorod à l'occasion du 85e anniversaire de ce fleuron de l'industrie de l'époque stalinienne. Ambiance très soviétique donc, car l'un des ouvriers, un certain Artyom Baranov, a été chargé chargé de poser une question à Vladimir Poutine. Je vous propose de l'écouter pour comprendre à quoi ça ressemblait.
Écoutons.
Vladimir Vladimirovich, здравствуйте, меня зовут Баран Артем. Большое спасибо вам за теплые слова.
Donc cet ouvrier se présente et dit comment il s'appelle. Il dit qu'aujourd'hui, dans cette salle, tout le monde, sans exception, soutient Vladimir Poutine. Et le lui demande, alors faites-nous un cadeau, annoncez-nous votre décision, car nous, on est pour vous, gaz est pour vous. Donc, Iskand, gaz est pour vous, gaz est pour vous. Et ensuite, Poutine répond sur un ton très modeste, merci pour votre soutien. En effet, il n'y aurait pas de meilleure occasion pour annoncer. Oui, je vais présenter ma candidature. Et le public est aux anges. Et gaz en russe, c'est l'abréviation donc, de cette usine, mais aussi l'homonyme du gaz, donc le produit. Et cela a tout de suite donné de nombreuses blagues sur les réseaux sociaux. Gaz est pour vous, le pétrole est aussi pour vous.
Alors, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 17 ans maintenant, c'est ça?
Ouais.
Est-ce que c'est un record dans l'histoire contemporaine russe?
Pas encore, mais Poutine, il a déjà dépassé Brejnev. Et au cas de sa victoire, donc en mars 2018, personne s'en doute, il resterait à la tête du pays jusqu'en 2024. Cela ferait de lui le dirigeant russe à la plus longue longévité au pouvoir après Staline, qui, je rappelle, a passé au pouvoir 31 ans. Et les jeunes russes qui sont nés en 2000, donc au moment où Poutine est arrivé au pouvoir, et qui iront voter la première fois en mars 2018, n'ont connu dans leur vie qu'un seul président, Vladimir Poutine. Donc on a du mal à imaginer cela en France. Et depuis cette annonce, le portail russe Medusa a fait une sorte de calculatrice en ligne très marrante. On indique sa date de naissance et ça vous calcule le pourcentage de votre vie que vous avez passé sous Poutine. Moi, j'ai calculé et c'était plus de la moitié, 55%.
Il faudrait faire le calcul pour tout le monde, bien que nous ne soyons pas, nous, sous le régime de M. Poutine. Alors, est-ce que les Russes soutiennent réellement Vladimir Poutine aujourd'hui? Les sondages, en tout cas, montrent qu'il disposerait d'une large base électorale.
Oui, les sondages lui donnent aux environs de 80-83%. Mais moi, je dirais que la situation a bien changé par rapport aux années 2000. La crise ukrainienne et syrienne, les sanctions occidentales ont coûté cher à la population, surtout aux plus démunis. Les retraites ne sont plus indexées. Les profs et les médecins voient leur salaire baisser. Et malgré le discours patriotique qui ne fait que s'accroître, on sent qu'une sorte de fatigue, voire du désespoir au sein de la population, surtout parmi les jeunes et de ce qui reste de la classe moyenne qui part massivement à l'étranger. Et donc, je pense que la situation est plus nuancée qu'elle puisse paraître à travers les sondages officiels.
Merci, Agnès Stroganova.
Accent du monde sur RFI.
Alors, l'actualité latino-américaine est marquée en ce moment par la crise post-électorale au Honduras. Près de deux semaines après l'élection présidentielle, aucun vainqueur n'a encore été déclaré officiellement. Et pour cause, les doutes sur la régularité du scrutin s'accumulent et l'opposition de gauche crie à la fraude organisée. Alors, où en est-on précisément aujourd'hui, Lucile Gimbert?
Alors, en fait, les deux principaux candidats se sont autoproclamés vainqueurs. Le premier, le président sortant de droite, Juan Orlando Hernández, et son rival de l'alliance de gauche, Salvador Narrala, un présentateur télé très populaire. Au lendemain du scrutin du 26 novembre, le tribunal électoral donnait une avance de 5 points pour Narrala. On en était à environ 57% de votes dépouillés. Et puis le décompte a été suspendu pendant plusieurs jours. Et lorsqu'il a repris, le système électronique a été interrompu à plusieurs reprises. Et puis progressivement, à partir de mardi, le président sortant a récupéré son retard et finit par dépasser son rival, tout juste d'un point et demi. Pour l'opposition, il n'y a donc pas de doute. L'exécutif a organisé la fraude en manipulant les registres électoraux. Et puis le président sortant lui répond que tout ça s'explique par le vote rural qui est en sa faveur et qui a mis plus de temps à être comptabilisé.
Alors, qu'en disent aussi les observateurs internationaux, qui étaient nombreux d'ailleurs à suivre ce scrutin dit sensible?
Oui, alors les représentants de l'Union européenne et de l'Organisation des États américains ont dénoncé le manque de transparence et de garantie du scrutin. L'OEA parle d'irrégularité, je vais y arriver, avant, pendant et après le vote. Les doutes avaient commencé bien avant même, parce que en fait, la constitution au Honduras ne permet pas la réélection. Alors, le président sortant avait pu quand même se représenter grâce à une décision très polémique du tribunal constitutionnel qui va en quelque sorte désactiver cette interdiction. Et beaucoup d'experts disaient qu'en fait, c'était impossible. Une assemblée constituante aurait pu modifier cette disposition. Pour l'opposition, le président Hernandez en fait a la main mise sur le tribunal constitutionnel, sur l'organisme électoral où l'opposition n'est pas présente, pas représentée. Et puis, du côté de la population, eh bien, elle semble avoir perdu confiance en ces institutions. Un dernier élément qui est important à avoir en tête, c'est qu'en toile de fond, il y a la crise de 2009 au Honduras, où le président de gauche, Manuel Zelaya, qui est soutien du candidat actuel de l'opposition et qui est considéré comme le vrai chef de l'opposition, en fait, avait été renversé par un coup d'État orchestré par l'actuel parti au pouvoir, le Parti national, les militaires et les États-Unis, notamment en cause parce qu'il voulait autoriser la réélection.
Quelques mots, sortie de crise envisagée, quelles sont-elles ?
Alors le tribunal électoral a commencé à recompter un peu moins de 5000 urnes, mais sans la présence de l'opposition. L'opposition veut un décompte de tous les votes, c'est ce que demandent aussi 8 pays d'Amérique latine. Une autre option, ce serait d'organiser une nouvelle élection, mais tout ça dans un contexte d'extrême tension.
Merci Lucille. Avec vous, Nian Wang, on va parler d'Internet en Chine parce que la croissance économique en ligne n'est manifestement pas incompatible avec l'accès aux informations de plus en plus limité. C'est ce que la Chine, en tout cas, démontre au monde à l'occasion de cette conférence mondiale d'Internet cette semaine. C'est la quatrième fois que le pays organise cette rencontre. Et cette année, avec plus de 1500 représentants nationaux, internationaux, le Parti communiste chinois a mis l'accent sur deux concepts. Alors, bâtir une communauté d'Internet de destin partagé et la souveraineté en ligne. Quelle est l'idée derrière cette démarche, Ninan ?
En fait, il s'agit de considérer l'espace d'Internet d'un pays comme une entité de souveraineté, de créer des frontières et ensuite s'assurer par les contrôles qui peuvent entraîner des conséquences juridiques. Et donc, comme ce qu'on fait aux frontières géographiques réelles, sur Internet, on réglemente les informations qui entrent et les informations qui sortent. Et le reste du monde ne peut rien faire avec car il s'agit de la souveraineté de la Chine. Un exemple, le président de la Chine, Xi Jinping, s'est exprimé. Mais aujourd'hui, la manière dont on gère l'Internet ne représente pas l'intérêt ni la volonté de la majorité des pays. Le système doit être fait avec la participation de tout le monde et doit correspondre ensuite à l'intérêt de la majorité. Un seul pays ou un groupe de pays ne peut pas imposer ce qui lui convient au reste du monde, sinon il s'agira de l'hégémonie.
Alors, est-ce que les participants sont d'accord avec cette idée ? Comment ont-ils réagi ?
Le contrôle d'Internet n'était pas autant commenté que l'aspect de coopération. Selon le PTG d'Apple, Tim Cook, le développement de l'économie digitale et les intérêts partagés proposés par la Chine sont aussi dans la vision de l'entreprise, sachant que le géant américain se fait beaucoup critiquer ces derniers jours justement de se soumettre à la pression du gouvernement chinois et en réalité elle vient de faire impossible le téléchargement de Skype et plein d'autres applications pour les utilisateurs d'une adresse IP en Chine.
Alors expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette...
Pratiquement, ça veut dire que si tu es géolocalisé en Chine, tu ne peux plus télécharger cette application. Par contre, si tu l'as déjà sur ton ordinateur, pour l'instant, tu peux toujours continuer à t'en servir. Beaucoup de médias américains ainsi que des organisations de droits de l'homme jugent que Tim Cook lèche la bague d'or de la Chine et qu'il est désespéré pour garder ce qu'il reste comme marché chinois. Et l'ancien premier ministre français Dominique de Villepin était aussi sur place pour la conférence. On l'écoute de ce qu'il en pense de la conférence.
La Chine fait partie aujourd'hui des grands acteurs de l'Internet et la capacité qu'a montré la Chine dans les dernières années de développer une économie concurrente, des technologies concurrentes des grands champions américains. On le voit avec Alibaba, JD.com, Baidu, Tencent. La France et la Chine ont des intérêts communs comme protéger le cyberespace, protéger la base de données individuelle de chaque citoyen. Et dans ce domaine, je crois qu'il y a des avancées possibles, une coopération très étroite que nous pouvons avoir entre Chinois et Français dans le cadre de notre partenariat stratégique. Et je pense que la visite prochaine d'Emmanuel Macron en Chine pourra être l'occasion d'évoquer un certain nombre de ces sujets.
Voilà, Dominique de Villepin, lors de cette conférence en Chine. On n'en dira pas plus aujourd'hui dans Action du Monde où, comme d'habitude, les accents étaient légers, mais le monde bien présent et on s'en félicite dans cette émission. Merci à toutes les trois pour le service russe, Anya Stroganova pour le service en chinois, Ninan Wang et pour le service en espagnol, Lucille Gimbert. Merci de votre éclairage particulier de l'actualité du monde. Merci également à Quentin Bresson qui réalise cette émission. Rendez-vous à la prochaine. Restez à l'écoute. Un nouveau journal sur Radio France.